Bonjour, Moutassem, amour avec vous, bienvenue au 37e épisode du podcast Pratiquer la méditation. Aujourd'hui, on va parler de méditation pour les chefs d'entreprise. C'est pas un sujet que j'ai l'habitude d'aborder sur le blog ou dans ce podcast, mais j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Sébastien Henry, qui est lui-même chef d'entreprise et qui propose un programme de méditation, un programme pour les chefs d'entreprise, pour les décideurs. J'ai trouvé le programme de Sébastien fascinant car il a vraiment le potentiel d'améliorer notre société. Selon Sébastien, la méditation, ça permet aux décideurs, ça permet aux chefs d'entreprise d'avoir plus d'empathie, ça leur permet de prendre des décisions plus justes, ça permet aussi d'obtenir un équilibre entre leur bien-être et leur nécessité de performance, et surtout, la méditation permet de créer des business avec des objectifs sociaux et environnementaux. Donc je vous laisse découvrir cet entretien avec Sébastien. On va mentionner des auteurs, on va mentionner des livres pour retrouver tous les liens. Rendez-vous sur le blog, donc sur pratiquer-la-meditation.com et allez sur la rubrique podcast où vous trouverez cet épisode, le 37, où je m'entretiens avec Sébastien Henry. Bonne écoute. Et bonjour, Moutassem, amour avec vous pour un nouvel épisode du podcast pratiquer-la-meditation.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Henry qui fait méditer les décideurs. Sébastien, bonjour et merci de participer à ce podcast.
Bonjour, c'est un plaisir.
Alors Sébastien, vous êtes licencié en psychologie et en philosophie. Vous avez cofondé, co-dirigé une entreprise en Asie. Vous avez aussi été formé à l'accompagnement de dirigeants aux États-Unis et au Japon. Et vous notez que vous travaillez en priorité avec ceux qui veulent concilier exigences professionnelles avec quête de sens. Donc, vous avez développé un programme de mindfulness, de pleine conscience au sein des entreprises et vous êtes l'auteur de 3 ouvrages sur la méditation pour les décideurs. Donc, Sébastien, comment vous avez découvert déjà la méditation d'un point de vue personnel ?
Alors, moi, j'ai commencé il y a 15 ans. J'étais jeune cadre, j'en ai 42 aujourd'hui, donc dans l'industrie. Et puis, voilà, j'avais choisi une entreprise dont les valeurs me parlaient particulièrement je me suis aperçu que les valeurs vécues à l'intérieur étaient radicalement différentes de celles qui m'avaient attiré. Donc c'était une période assez difficile où je ressentais vraiment un besoin de centrage. Et voilà, j'avais recherché à l'époque, on en parlait beaucoup moins, évidemment ça existait, mais on en parlait beaucoup moins que maintenant. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour chercher et j'ai fait un premier stage d'une semaine qui m'a absolument... j'avais pas forcément séduit, plus que séduit et touché, je me suis très vite aperçu que ce serait une pratique fondamentale dans ma vie. Et depuis 15 ans, j'ai quelques exceptions par an, mais ça fait vraiment partie de mon quotidien, un temps de méditation le matin, le plus possible maintenant aussi un temps l'après-midi ou un temps le soir pour garder cet ancrage dans la journée.
D'accord, et donc c'est ça qui vous a donné envie ensuite de partager cela avec comment vous êtes passé de l'expérience en tant que vivre la méditation d'un point de vue personnel à l'envie de la partager?
Ouais, évidemment, les premières années, je n'avais aucune intention de partager ça avec d'autres parce que j'étais moi-même complètement en chemin. Au tout début du chemin, d'ailleurs, j'ai la chance de rencontrer et de fréquenter des gens comme Mathieu Ricard et Christophe André. Je me sens évidemment toujours au début du chemin, mais j'ai quand même fait quelques pas de plus depuis 15 ans. Et donc voilà, je dirais que les 7, 8, 10 premières années, je n'avais aucune intention de partager avec d'autres. Et en même temps, notamment ces 5-6 années, avec le recul, je me suis aperçu... En fait, avec le recul, à quel point ça m'avait aidé à grandir du point de vue personnel, et aussi et surtout du point de vue professionnel. Alors, c'est une des grandes idées que je cherche à partager en ce moment dans mes livres, dans mes conférences, c'est que pour les décideurs en particulier, la pratique de la méditation a un enjeu multiple. C'est pour moi bien au-delà d'être juste moins stressé ou un peu plus zen, comme on le lit beaucoup dans les magazines. Il y a un vrai enjeu beaucoup plus fort pour le décideur, pour son équipe ou ses équipes et pour l'entreprise dans sa globalité. Les enjeux, c'est quoi? Alors, c'est d'abord arriver à être beaucoup plus en empathie, à comprendre ses collaborateurs et ses collègues de façon plus fine et plus profonde, Donc c'est vraiment être plus relié aux autres. C'est ensuite arriver à prendre des décisions plus justes. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup les choses vont très vite. Et pour moi, c'est grâce à la pratique de méditation qu'on peut se mettre à l'écoute de notre voix de sagesse intérieure ou des signaux faibles qui expriment en fait l'essentiel. On ne les capte pas quand tout va très vite, quand on est noyé sous l'information. Et c'est pour moi très utile pour les décideurs d'arriver à prendre ces temps pour ralentir et se mettre à l'écoute des signaux faibles. Donc ça, c'est un autre enjeu, une prise de décision plus rapide et plus juste. Et puis, il y a l'équilibre bien-être-performance. S'apercevoir déjà à quel point on a tendance à se crisper sur des objectifs qu'on s'est fixés ou qui nous ont été fixés et comment on a à tout moment la capacité de reprendre une posture de liberté, une posture aussi créative, pour reprendre une image assez classique, le lever du guidon et voir à quel point le paysage est plus riche et où il y a encore plus de ressources que ce qu'on voit qu'on a le nez dans le guidon. Voilà, donc ça c'est des enjeux forts. Et puis j'en ajouterai un dernier qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'enjeu d'arriver à inventer de nouvelles formes de business qui soient beaucoup plus au service des enjeux sociaux et environnementaux actuels. Je m'intéresse énormément à ce que les décideurs qui ont une pratique régulière de la méditation peuvent arriver à imaginer face à la pauvreté extrême, face à la crise écologique, des nouveaux services, des nouvelles formes de business, des nouvelles organisations. C'est pas uniquement le social business, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à inventer, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être inventées. Et voilà, je constate que les décideurs qui ont une pratique régulière de retour à l'essentiel, comme celle de la méditation, souvent trouvent une détermination altruiste encore plus forte. Et ça, pour moi, c'est le vrai... l'enjeu le plus fondamental.
D'accord.
À mes yeux.
Et c'est vrai que c'est, là, on parle de décideurs, mais surtout les trois premiers points, ça s'applique à tout le monde, que ce soit
bien sûr.
À la personne dans sa famille, que ce soit à celui qui tient une entreprise individuelle. C'est des.
Bien sûr, par exemple, si on prend juste dans le plan de la famille, enfin, juste, c'est une dimension essentielle de la vie, en tout cas pour moi et pour beaucoup de gens que je connais. Si on prend le se sentir plus relié, c'est quand on arrive à la maison le soir ou au lever le matin, être plus relié à ses enfants, à son conjoint, à sa conjointe. C'est sur la prise de décision juste. Il y a aussi en famille des décisions parfois difficiles à prendre. Comment on peut saisir cette justesse au plus près? Et puis cet équilibre bien-être au cœur de l'action. Entre bien-être et action, c'est aussi bien sûr sur les mêmes problématiques. Pourquoi en fait je me concentre particulièrement sur les décideurs, c'est que d'abord je me sens très proche d'eux, je suis chef d'entreprise dans l'âme, créé plusieurs entreprises, j'en ai accompagné plusieurs dizaines, voire centaines je pense sur 7-8 ans maintenant, et je sais à quel point c'est difficile pour eux, c'est un métier difficile d'être chef d'entreprise ou manager ou dirigeant, donc ils ont besoin de soutien, et en même temps il y a une vraie responsabilité, ils ont le pouvoir. Bon, on le sait maintenant, et de plus en plus dans le monde économique. Et face à ces enjeux sociaux et environnementaux dont je parlais tout à l'heure, c'est eux qui ont une partie des réponses. Pas toutes, mais une bonne partie des réponses. Et voilà, il faut à la fois pour moi les aider et puis les challenger aussi amicalement. Mais voilà, il y a une vraie responsabilité.
D'accord. Et si on reprend un de ces points cités, ce serait intéressant de savoir comment le fait donc de méditer, le fait de se reconnecter à ses ressentis, de faire le calme en soi, comment ça nous aide à faire d'avoir des décisions plus justes, à avoir plus de clarté, à avoir peut-être plus confiance dans ses décisions, parce que c'est souvent un des facteurs de blocage, c'est que ce soit un chef d'entreprise. Ou quelqu'un dans sa famille, il y a des décisions importantes à prendre et on ne sait pas quelle direction donner. Donc en quoi le fait de méditer, ça va aider dans ce sens?
Alors ça demanderait des développements un peu plus longs que notre conversation là, mais dans les grandes lignes, hein, ce que je peux dire, et c'est des recherches qui sont faites assez poussées en ce moment, dans le domaine de l'intuition notamment, il y a de plus en plus de recherches sur par exemple le ventre comme deuxième cerveau, ça peut paraître complètement dingue, mais on s'aperçoit qu'il y a vraiment un faisceau de neurones dans notre estomac. Et pour faire court, je pense qu'avec la pratique de la méditation, on se met à l'écoute de la plus belle partie de nous-mêmes, c'est-à-dire une partie de nous-mêmes qui est altruiste, qui a une forme de sagesse, et qu'on oublie complètement quand ça va trop vite, quand on est noyé par la masse d'informations. C'est si vous voulez, c'est comme des signaux faibles en fait pour nous. Et on le voit assez bien, par exemple, je donnais concrètement des exemples de décideurs qui vont, sur un mode purement analytique, s'orienter plutôt vers telle décision. Et quand je travaille avec eux, je leur demande de prendre voilà, un petit temps de silence et de vraiment de se mettre à l'écoute de ce qui émerge en eux comme voie de justesse. Souvent, il va y avoir autre chose qui va émerger que la réponse qu'ils avaient préparée.
D'accord, alors là je suis curieux. Donc par rapport à ces personnes ou peut-être par rapport à votre parcours, est-ce qu'un jour vous avez été dans une situation où intellectuellement vous alliez dans une direction et lorsque ensuite vous avez pris le temps de vous recentrer, de méditer, vous vous êtes rendu compte que c'est pas en accord avec vos valeurs, que c'est pas vraiment là où vous vouliez aller?
Plein de fois, je peux vous donner un exemple. Pour moi, c'était la décision une des plus importantes que j'ai eu à prendre, je pense, dans ma vie, qui était après avoir donné tant d'énergie, de temps à développer mon entreprise en Asie pendant 7 ans. À chaque fois que je prenais le temps de méditer dans les montagnes, j'étais à Hong Kong à l'époque, j'allais tous les week-ends dans les collines, aux petites montagnes autour de Hong Kong, et à chaque fois que je me mettais en posture de méditation, que je prenais ce temps pour ralentir, il y avait une voix, un appel en moi extrêmement fort qui m'invitait à vendre mon entreprise, qui me demandait de vendre mon entreprise. Et intellectuellement, c'était pour moi une erreur fondamentale parce que l'entreprise commençait juste à prendre de la valeur. Émotionnellement, c'était hors de question parce que j'avais beaucoup, beaucoup donné pour cette entreprise et j'y étais attaché. Mais en revanche, cet appel intérieur était plus fort que tout. Ça résonnait avec une clarté et une force incroyable. Donc j'ai résisté pendant un an et demi, 2 ans avant de suivre cet appel intérieur qui s'est révélé une des plus justes et importantes décisions que j'ai prises.
D'accord, et la méditation pour cela a joué un rôle important. S'il n'y avait pas cette pratique régulière, peut-être que vous n'auriez pas pu.
Alors, je pense que je serais arrivé, peut-être, j'en sais rien d'ailleurs, peut-être que je serais toujours dans cette carrière-là, dans cette entreprise, peut-être que je serais arrivé au même point, mais en tout cas avec beaucoup plus de temps. Je pense que le fait de m'être mis à l'écoute de ces signaux faibles, c'est-à-dire que je ne percevais pas dans le quotidien parce que j'étais trop occupé, m'a permis de gagner de précieuses années dans ma vie et de me recentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire ce qui fait vraiment le plus sens pour moi en profondeur, et voilà, de développer l'activité que je développe maintenant, qui correspond 1000 fois plus, je dirais, à qui je suis vraiment, et ce pourquoi je suis censé, à mon avis, œuvrer.
Oui, et juste pour continuer un peu sur ce sujet, là, tout en sachant qu'il y a certainement eu une période de transition qui était avec des difficultés où les choses devaient voilà, prendre le temps de se mettre en place. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose que, voilà, que souvent les gens
C'était le grand
vivent.
saut. Oui, c'est un grand saut. Et en même temps, il y avait, pour moi, la grande force de cette d'écoute, ce que j'appelle parfois de l'intuition profonde, ou cette voix de justesse en nous, c'est j'étais tellement convaincu que cette voix était juste qu'il y avait très peu de peur, en fait. Je savais que ça allait se mettre en place, parce que ça résonnait intérieurement, en fait. Alors là, je parle de grandes, grandes décisions. On n'a pas à les prendre tous les jours, ce type de décision, mais ça arrive, pour donner des exemples plus communs, quand on parle dans une entreprise, de recruter quelqu'un, de se séparer de quelqu'un, de travailler avec tel ou tel partenaire, ça m'arrive encore systématiquement de consulter ces signaux faibles, de me mettre à l'écoute de ce qui peut émerger du silence intérieur, parce que je sais que là, de là viendra la vraie justesse, et pas tellement de mon analyse. L'analyse a bien sûr un rôle à jouer, et je la jette pas aux orties, hein. Je prends aussi du temps pour voir le plus, le moins, les opportunités, voilà, les risques. Mais fondamentalement, c'est pas là-dessus que je m'appuie le plus maintenant pour la décision. Et c'est
D'accord.
quelque chose que je partage énormément, quasiment systématiquement avec les décideurs avec qui je travaille. Il y a une vraie ouverture et un vrai intérêt sur cette dimension-là, parce que les gens qui en prennent beaucoup de décisions savent qu'au bout d'un moment, on est obligé de s'appuyer sur un des grands patrons, un patron du CAC 40 avec qui j'en parlais récemment, on parlait de boussole intérieure. Voilà, on a besoin de plus en plus de cette boussole intérieure.
Oui, parce que c'est vrai que lorsqu'on se lance dans le monde de l'entreprise, il y a une telle implication d'énergie au niveau émotionnel, d'implication, que parfois, j'imagine qu'on peut perdre appui. Le passé ne nous aide plus trop à savoir où on va.
Oui, puis surtout, il y a un rythme maintenant. La plupart des dirigeants avec qui je travaille, ils ont 200, 300, 400 emails par jour, réunion sur réunion, des appels. C'est un rythme extrêmement élevé. Et donc, voilà, tout le monde a cette boussole, mais la capacité qu'on a maintenant à la consulter, elle est nettement amoindrie par rapport à avant.
D'accord. Alors, et dans un monde qui paraît assez cartésien, donc surtout donc le monde de l'entreprise, comment ça s'est accueilli la méditation quand vous leur proposez cette approche?
Ça bouge extrêmement vite. Il y a évidemment encore beaucoup de méfiance, de perception plutôt négative. Mais je crois que des gens comme Christophe André et Mathieu Ricard, justement, ont fait un travail extraordinaire qui est voilà, de vraiment sensibiliser à cette pratique. Quand Christophe André vend 300 000 livres, forcément, dedans, il y a des décideurs, il y a des époux, des épouses de décideurs. Et donc, voilà, et je pense qu'il y a maintenant. J'ai l'impression beaucoup plus de curiosité que de résistance forte. Maintenant, il faut aussi convaincre assez vite que ça peut en quoi ça peut les aider. C'est une des caractéristiques du monde de l'entreprise. On veut tout de suite savoir à quoi ça marche, comment ça fonctionne, etc. À quoi ça va nous servir. Et là, il y a un vrai enjeu qui est de ne pas perdre non plus. Et c'est quelque chose que je mets tout de suite en avant et avec force que c'est une pratique qui pour laquelle qu'il faut aborder avec vraiment l'état d'esprit qu'il n'y a rien à réussir, rien à atteindre. C'est un espace de liberté, un des seuls qui nous reste d'ailleurs, où ce temps ne doit servir à rien. Et leur expliquer le paradoxe superbe en fait, qui est que vraiment quand on est dans cette approche que ça ne doit servir à rien, en fait, ça nous enrichit profondément et ça nous aide à grandir. Donc voilà. Juste un signal fort pour moi qui a émergé récemment, c'est que j'ai commencé à accompagner un groupe de dirigeants de très haut niveau, c'est-à-dire des gens qui appartiennent au comité exécutif, c'est-à-dire les dix plus grands dirigeants d'entreprises du CAC 40, qui vont se réunir régulièrement pour. Ils ont tous commencé une pratique de leur côté, en mindfulness ou en méditation, et ils vont se réunir régulièrement pour pratiquer ensemble et ensuite s'aider à donner plus de sens à leur action pour eux et pour leurs collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui pour moi aurait été complètement impensable encore il y a quelques années,
Oui,
d'avoir à
c'est
ce niveau-là des dirigeants qui ont commencé une pratique et qui veulent la continuer surtout.
Oui, c'est vrai que c'est encourageant. Après, il y a aussi cet aspect pragmatique. Si il commence à en ressentir les bienfaits, c'est très vite encourageant à persévérer et à approfondir.
Tout à fait. Il voit à quel point ça les nourrit. Et ça les aide.
D'accord. Et donc là, vous avez un peu abordé le deuxième volet de ce que vous partagez. Donc non seulement une pratique personnelle de la méditation, mais aussi constituer un groupe de personnes qui méditent, un groupe de décideurs qui se réunissent. Donc quelle est l'utilité de créer ce type de groupe qui a un objectif commun?
En fait, après avoir rencontré des dizaines et des dizaines de décideurs qui avaient commencé une pratique il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui voulaient continuer et en même temps se sentaient un peu seuls, je me suis dit, il faut arriver à les aider. Il faut les aider parce que, en fait, il faut bien voir quand on est dans un rythme de vie et dans des responsabilités assez lourdes, et qu'on prend ces temps réguliers pour revenir à l'essentiel, pour ralentir la tension ou l'écart entre ce qu'on voit de nous-mêmes dans ces temps de ralentissement et ce qu'on vit au quotidien est pas forcément facile à vivre. On se dit, on se dit parfois quelle vie folle en fait, hein. Et donc la tentation de soit quitter cette carrière, soit prendre du retrait peut exister. Et moi je me suis tout de suite dit, il faut absolument les aider à donner plus de sens et d'impact à leur action, dans le sens qui les touche le plus, afin qu'ils poursuivent leur engagement. En fait, on a vraiment besoin de dirigeants, pour moi, et de managers qui cultivent cette plus belle partie d'eux-mêmes et qui la mettent en œuvre dans l'entreprise. Et donc, je me suis dit, quelle est la plus belle façon de les aider? Et j'en suis arrivé à la conclusion que la façon la plus efficace de l'aider, c'est pas tellement moi-même de leur parler, de partager avec eux, mais qu'ils s'aident mutuellement, en fait. Donc, des petits groupes, j'en suis arrivé à l'idée de développer des petits groupes de décideurs dans le plus possible de villes en France et dans d'autres pays qui se réunissent régulièrement pour un temps de pratique ensemble et puis un temps à s'aider et aussi à se challenger mutuellement sur voilà, comment ils peuvent donner plus de sens et d'impact à leur action maintenant et aussi renforcer leur pratique. Voilà,
D'accord.
donc il y a un premier groupe qui a été fait à Paris l'année dernière, un deuxième à Genève et là ça va être étendu à une dizaine de villes. En France, en Belgique et en Suisse. Voilà, pour moi, c'est un projet qui me tient extrêmement à cœur. C'est pas pour moi un projet d'entreprise, même si c'est pas une association, c'est-à-dire que les dirigeants vont payer pour cette participation qui va leur apporter de la valeur. Mais pour moi, c'est plus une mission de service public, en fait. D'ailleurs, personnellement, je vais pas moi-même retirer de profit ou même de revenus pour l'organisation de ces cercles dans les différentes villes. Mais ça me tient énormément à cœur. Voilà, ma motivation, elle est énorme parce que j'ai vu à quel point ça pouvait aider des décideurs. Je l'ai vu à Paris, je l'ai vu à Genève, j'ai vu leur regard, j'ai vu leur énergie qui changeait quand ils recevaient le soutien du groupe. Et ça suffit amplement à ma motivation.
Oui, parce que ce soutien, c'est non seulement dans la pratique de la méditation, mais c'est aussi d'un point de vue des décisions professionnelles. Ils ont de quoi partager, étant tous dans ce monde-là, et parfois on est souvent isolés. Et donc la structure, et donc le programme méditation et leadership, c'est une structure qui a été mise en place pour cela. C'est bien ça, hein?
Oui, c'est vraiment l'intention de soutenir les décideurs qui sont en chemin pour qu'ils trouvent des voies ensemble de donner plus de sens et d'impact à leur action.
D'accord.
Voilà, donc avec un temps de pratique et puis un temps d'échange. On appelle ça un peu techniquement un groupe de pairs, c'est-à-dire on n'est pas là pour. Moi, je suis pas là, ou les autres facilitateurs sont pas là pour donner des conseils, pour leur trouver des solutions, mais c'est l'idée qu'ils se posent ensemble les bonnes questions, ou mutuellement les bonnes questions, qui s'aident à trouver des réponses dans le groupe. Et voilà, il faut compter, en fait, c'est un groupe qui compte sur leurs ressources à eux. Quand vous mettez 10 décideurs ensemble, il y a une masse de talent, d'énergie, de créativité qui est considérable. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à la faire émerger.
D'accord. Et ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aussi à des entrepreneurs individuels, ça s'adresse à quel profil de personne?
Alors, on s'adresse en priorité à des gens qui ont vraiment une équipe à manager. Donc, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des managers, ça peut être des dirigeants de PME ou de grands groupes, mais ça ne s'adresse pas à des gens qui travaillent seuls. Alors, il y a d'autres groupes qui peuvent exister pour les indépendants. Et je conçois tout à fait, il y a aussi vraiment des besoins pour accompagner des gens qui sont en indépendant, c'est-à-dire sans équipe autour d'eux. Mais c'est pas, voilà, il faut bien faire des choix et on a décidé de s'arrêter sur ce choix. Parce que c'est vrai que les problèmes de management humain et technique sont particuliers. Et les décideurs qui ont ces problèmes apprécient d'être avec d'autres décideurs qui ont les mêmes problèmes.
Bien sûr, oui. D'accord. Donc moi, c'est pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, ils peuvent aller donc sur meditationleadership.com et
Voilà. Et
je mettrai le lien sur la page de l'article de cet entretien. Comme ça, pour les personnes qui veulent plus d'informations, pourront aller voir les villes où ce programme est disponible. Comment se passe le programme? Il y a des horaires fixes? Comment ça s'organise
Alors, c'est
habituellement?
une fois par mois. Une fois par mois, les gens signent, en fait, s'engagent pour cinq sessions. Donc, soit de février à juillet, soit de septembre à janvier. Et tous les cinq sessions, le groupe s'ouvre, c'est-à-dire ceux qui veulent partir, ne pas refaire un cycle, partent. Ceux qui veulent rentrer, une nouvelle personne qui rentre en conséquence. Ce qui fait qu'il y a toujours un noyau dur et ça maintient la dynamique du groupe. Voilà, et c'est de 19h30 à 22h le soir, donc une fois par mois, avec un facilitateur professionnel qui rassemble trois caractéristiques. La première qui est une expérience du coaching. Parce que voilà, il y a des compétences techniques pour animer un groupe afin qu'il y ait le plus de valeur qui soit créée pour les participants, notamment en évitant ce que j'appelle moi la douche de conseil, c'est-à-dire quelqu'un va exprimer un problème qu'il rencontre et tout le monde lui tombe dessus avec des conseils qui sont bien intentionnés souvent, mais souvent pas très utiles. Voilà, donc ça c'est première caractéristique. Deuxième caractéristique, une longue pratique de la méditation, du facilitateur. Et troisième caractéristique, une expérience en entreprise pour qu'il puisse y avoir un lien qui puisse être fait avec les enjeux.
D'accord. Oui,
Voilà.
c'est complètement cohérent avec l'objectif du programme. Et c'est vrai que ça, comme vous disiez, travailler avec les chefs d'entreprise, c'est un énorme levier par rapport au changement que ça peut apporter dans la société. Moi, je parle souvent de la méditation pour les enfants, qui offre aussi un énorme levier. Mais oui, mais c'est souvent ceux qui amènent le changement, ceux qui font évoluer la société, ça vient souvent de ces décideurs. Et je pense que c'est un très beau projet.
Merci en tout cas. Et bien, alors, quelque chose que je dois ajouter aussi, parce que c'est très très important aussi pour moi, quand j'ai commencé, la réalité en fait qu'on voit maintenant dans les entreprises, c'est que des programmes de mindfulness sont de plus en plus, on pourrait dire, achetés par les entreprises. C'est des cas de plus en plus fréquents. C'est des tarifs qui sont élevés, par rapport aux instructeurs de méditation qui sont souvent, enfin les instructions ou les initiations à la méditation sont souvent gratuites en dehors de l'entreprise ou très peu chères. Et le monde d'entreprise fonctionne différemment. En entreprise, on considère que quand ça a une vraie valeur pour l'entreprise, il faut que ce soit payé. Et moi, je trouve que c'est une logique qui est saine. En même temps, pour moi, il y a une recherche à un moment de justesse de me dire, voilà, ça m'a été transmis de façon souvent très désintéressée et généreuse. Et je peux facturer ça en entreprise à des tarifs qui sont sans commune mesure. Et dans toutes mes actions et méditation leadership, ce cycle méditation leadership en particulier, mais pas uniquement, je me suis dit, voilà, il faut trouver un moyen de redonner à ceux qui ont eu beaucoup moins de chance. Et 20% de toutes les sommes facturées vont aller à une association qui va partager la mindfulness, la méditation avec des publics en difficulté, donc prisonniers, personnes en insertion, parce que, évidemment, et peut-être même encore plus, les gens qui sont en grande difficulté dans leur vie ont besoin de cet ancrage aussi, ou peuvent avoir besoin de cet ancrage. Et pour ceux qui en ont besoin, pour moi, c'est absolument impératif de partager aussi cette richesse qu'on a trouvée. Voilà.
Très bien. Alors, Sébastien, j'aimerais juste terminer l'entretien en vous posant trois questions. Donc, c'est trois
Ouais.
questions courtes et vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour répondre. Alors, la première question, c'est quel est le conseil que vous donnez le plus souvent?
Ah, le conseil que je donne le plus souvent à des décideurs, c'est. Alors, c'est pas un mot qui est forcément très à la mode, mais c'est le mot discipline, c'est-à-dire. Ils comprennent, hein, c'est que la mindfulness est un entraînement de l'esprit ou la méditation est un entraînement de l'esprit qui demande, et vous le savez, hein, une constance, une forme de discipline, une pratique régulière. Et je sais que c'est difficile dans le quotidien d'un décideur de trouver ce temps, et en même temps, c'est la clé. Et alors, je partage aussi que j'aime faire rimer discipline, du coup, avec joie, avec paix intérieure, parce que pour moi, la clé de cette. D'une discipline dans, on voit plutôt le, de quelle façon cette discipline va se traduire dans le champ de la méditation, ça va être justement par cette paix intérieure et par cette joie. Et donc, c'est beaucoup moins austère que la discipline pour la discipline.
Oui,
C'est une
et après,
discipline qui vaut le coup pour moi.
et c'est une discipline qui donne de la liberté.
Exactement, ouais. C'est un autre mot, voilà, joie, liberté, paix intérieure. Là, la discipline est beaucoup plus attirante, on pourrait dire.
D'accord. Alors, seconde question, quelle est votre habitude ou votre dans votre hygiène de vie qui vous fait le plus de bien au niveau physique, au niveau de votre vitalité?
Alors j'essaie de combiner. Il y a beaucoup de gens dans les décideurs qui me disent oui, mais alors moi je fais déjà du sport et c'est ça qui me permet de tenir, de maintenir mon énergie. Et je vois très bien, moi je fais beaucoup de sport moi-même, donc ça fait partie de mon équilibre de faire régulièrement du sport. Mais en même temps, je pense que la pratique régulière a encore plus d'importance pour moi. Donc c'est vraiment. J'ai vraiment appris à sanctuariser les temps de pratique dans mes journées et dans mes semaines. Donc très concrètement, 20 minutes le matin en me levant, un temps dans l'après-midi aussi de pratique, et puis une retraite tous les 2 mois d'une semaine pour vraiment là me retirer. Je déconnecte des emails du téléphone, et cette retraite va être soit en famille, soit seule, soit une combinaison des deux. Mais dans tous les cas, voilà, c'est une déconnexion complète. Voilà, pour répondre à la question, c'est ça qui, pour moi, m'aide à maintenir cet équilibre.
D'accord. Ok, très bien. Et dernière question.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un enseignant ou un auteur que vous appréciez particulièrement en ce moment?
Ah, moi, je me suis toujours senti proche d'Arnaud Desjardins, parce que je l'ai découvert il y a 15 ans, quand j'ai commencé à méditer, et notamment ce livre formidable en 4 tomes qui s'appelle, ah, voilà, le nom m'échappe, mais. Ça va me revenir, je pense.
Ok, on s'en
Un livre vraiment très profond et à la fois très concret. Voilà. Ce que j'aime dans l'enseignement d'Arnaud Desjardins, c'est qu'il y a eu, il y a vraiment une recherche d'intégration de la pratique dans le quotidien et au cœur de l'action. C'est ça qui m'avait plu le plus à l'époque, en fait.
Oui, et Arnaud Desjardins qui était auteur et qui avait aussi fait pas mal de reportages aussi, qui était assez
Oui, tout
passionnant.
à fait. Cinéaste, effectivement. Il a été un des premiers à filmer certains grands sages de l'Inde comme Mahananda Moyi et d'autres. Voilà, donc c'est quelqu'un que je continue à relire régulièrement. Parce que, voilà, à la recherche du soi, 4 tomes qui sont. Alors, 4 tomes, c'est un peu impressionnant, mais c'est tellement bien écrit, c'est tellement humble et puissant et vivant à la fois que. à la recherche de son.
Je mettrai le lien sous le podcast aussi pour les personnes que ça intéresse. Très bien, Sébastien, merci beaucoup pour votre temps. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez voir, quelle évolution vous aimeriez voir dans le monde de l'entreprise dans les 5-10 ans à venir en France?
Ah, ben moi j'ai un rêve auquel je me connecte chaque matin, hein, qui est que dans chaque secteur d'activité, une entreprise parmi les 5 plus importantes s'engage vraiment dans la voie d'un leadership conscient, c'est-à-dire que soit proposer à tous les échelons, à toutes les personnes qui le souhaitent, des temps de pratique afin de sortir de cette urgence permanente, de cette course folle et de recentrer le plus possible l'entreprise sur les vraies priorités et sur l'essentiel. Donc ça, c'est une première chose. Et qu'en même temps que cet effort vers un leadership plus conscient, il y ait aussi un vrai effort d'inventer des nouvelles formes de business qui soient beaucoup plus au service des plus pauvres et de la crise écologique. Voilà, je pense qu'on est à une époque où il y a énormément de choses à inventer. On a fait des affaires jusqu'à présent sur un mode qui était assez classique, avec une conception de l'entreprise assez classique, mais je crois qu'il y a des nouvelles choses à inventer. Je sais que les choses peuvent aller de pair. Plus les décideurs vont s'orienter vers un leadership conscient, plus ils auront une détermination forte à innover pour mieux répondre aux défis sociaux et environnementaux. Donc voilà, ça c'est la vision à laquelle je travaille. Heureusement, je ne suis pas le seul, hein. Pour moi, le changement social est un travail d'équipe, mais c'est ce qui me passionne.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir partagé votre vision, d'avoir partagé votre parcours et le programme que vous proposez, donc méditation leadership. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans vos projets.
Ben merci, Moutassem. Merci, merci d'avoir fait ce blog.
C'est avec plaisir et je vous dis à bientôt.
Ouais, à bientôt.